Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Le commentaire de
Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
Félix, bien sûr, on va parler de ce reportage hallucinant sur les armes illégales, mais juste avant, là, le texte là sur les grandes surfaces qui demandaient le passeport vaccinal. T'as vu ça, la madame de Gaspé? Elle est gérante d'un magasin, le magasin Heart de Gaspé. Elle refusait, elle, de demander le passeport vaccinal parce qu'elle dit, si on commence ça, après ça, on va refuser. Si on refuse de laisser entrer les non-vaccinés, après ça, on va refuser les personnes de couleur, les ethnies, les femmes puis les hommes célibataires. Ça n'a rien à voir.
Au chapitre, de quelqu'un qui, disons... mix ou amalgame les débats, là, probablement que c'est le meilleur exemple.
Ah oui.
Ça n'a effectivement rien à voir. Puis, tu sais, à noter aussi cette désinformation qui a été publiée par le Parti conservateur du Québec et Éric Duhaime. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il publiait une photo, là, d'une grande surface, un Walmart, pour ne pas le nommer, où il y avait des cubicules à l'entrée, là, entourés de plexiglas.
Oui.
Et Éric Duhaime disait, et le Parti conservateur du Québec, sous sa publication, que c'est ce qui attendait les non-vaccinés. On allait les mettre dans des cubicules et il déplorait que, bon, en s'en prenant au gouvernement, bien sûr, là, qu'on était rendu à une étape complètement folle de notre vie quand ça arrivait, mais surprise, il y a un porte-parole de Walmart Canada qui a rectifié les faits énoncés par Éric Duhaime en disant que c'est pas pour placer des non-vaccinés dans un enclos, c'est pour permettre aux employés de Walmart de vérifier le passeport vaccinal en toute sécurité. Wow. Donc, c'est les employés qui vont les vérifier dans des cubicules et non les vaccinés, les non-vaccinés qui vont se retrouver dans des cubicules. C'est une précision assez importante.
Ben, c'est une précision très importante. D'ailleurs, la caricature des Grecs aujourd'hui, c'est tellement drôle. Il y a un gars qui veut rentrer chez Costco. Le gars, il dit, tu peux pas rentrer. Il dit, non, je viens pas pour acheter des affaires, je viens pour l'offre d'emploi. Il dit, OK, pas de problème. Parce que tu peux travailler si t'es pas vacciné,
oui,
mais tu ne peux pas entrer comme client si tu n'es pas vacciné. Une des nombreuses incohérence. Écoute, je regardais aujourd'hui ce reportage du bureau d'enquête sur les armes illégales à Montréal. C'est un travail fou, c'est flabbergastant. Et il y a une épicerie à Montréal où les gens qui entrent par en avant peuvent acheter de la bouffe, mais ceux qui entrent par en arrière peuvent acheter des armes à feu.
Il est bon, hein, notre nouveau collègue,
ah, oui.
Marc Sandreski, c'est un ancien policier du STVM, Marc Sandreski, qui,
note,
là, après sa retraite, s'est inscrit à un certificat en journalisme à l'Université de Montréal, si je ne m'abuse, puis il travaille avec nous maintenant. Alors, je voulais le souligner, c'est un policier qui s'est intéressé au journalisme, il en était passionné, et il publie un texte ce matin où il nous affirme qu'il y a 2000 armes à feu illégales qui sont en circulation à Montréal, alors que la flambée de violence se poursuit. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est justement là, il a même parlé à un trafiquant d'armes là, qui a requis l'anonymat, qui dit que il y a au moins 2 nouvelles cargaisons en provenance des États-Unis là, qui entrent à Montréal à chaque mois. Donc, des armes de poing assez conventionnelles, des fusils à pompe, des pistolets mitrailleurs, des carabines militaires semi-automatiques, donc une variété impressionnante, mais apeurante aussi d'armes à feu qui entrent. Alors, les armes illégales, ça se vend entre combien? 1000 et 8000 $ sur le marché noir. Il y en a donc pour tous les goûts. Ce sont notamment des armes qui ont été achetées, il semble, dans l'État de la Pennsylvanie, où les lois sont très permissives. Donc, dans les armes, il y a des armes américaines, israéliennes, suédoises, des armes tchèques et des expédiés de l'RSS. Bon. Puis, ce qui est intéressant, c'est que Marc va jusqu'à, si tu veux, isoler certains groupes là, du crime organisé, comme la pègre irlandaise, qui serait derrière l'importation de plusieurs armes à feu, alors que les gangs de rue sont au plus bas dans la chaîne. Ça, on s'en doutait. Alors, tu parlais justement de cette épicerie-là, c'est tout à fait vrai. Puis je vous conseille d'aller le lire là. Marc a fait vraiment un travail énorme. Et avec la collaboration de mon collègue, fidèle ami et partenaire, Éric Thibault. L'arbre qui circule le plus souvent à Montréal, c'est le VZ-58. Ça, c'est une... si vous voyez la photo, là, c'est une carabine de la République tchèque là, qui peut coûter jusqu'à 7 000 et 8 000 $. C'est une carabine militaire, là. Et ça circule ici, là. Alors,
écoute, voilà. t'as des Uzis. Je regardais ça, des pistolets mitrailleurs, là, des Uzis avec 900 coups par minute. C'est une des armes les plus en circulation au monde. Tu voyais ça à Los Angeles dans les années 80, les gangs de rue, là, les Bloods, puis les Crisp, les tirais-tu à coups de Uzi?
Oui, puis les fameux Cobrés, là, les M11 aussi. Les Cobrés, c'était des pistolets mitrailleurs qui étaient extrêmement utilisés pendant la guerre des moteurs. Il y a même l'armurier des Hells, là, M. Vézina, qui en fabriquait. Alors, c'est des armes qui font beaucoup de dommages lorsqu'on appuie sur la gâchette.
Et je lisais ça, là, l'épicerie où ils vendent des armes illégales, ça me fait penser, moi, ben, j'aime beaucoup aller dans la petite Italie à Montréal. Et il y a un endroit sur la rue Dante, dans la petite Italie, où tu peux acheter des trucs de cuisine, c'est-à-dire des chaudrons, de la vaisselle.
Oui,
tout
à la quincaillerie, c'est la maman de Stéphano.
Exactement. T'ajoutes des chaudrons, puis tout ça. Et il y a des armes à feu aussi, mais ce sont des armes à feu légales. Bien sûr, pour chasser, mais je trouve que c'est la seule place au monde où tu peux acheter une poêle et une arme à feu. Mais là, c'est légal. Là, on parle d'une épicerie qui vend des armes à feu comme ça, totalement illégal. C'est fou furieux.
Bref. Quand on est allé, on a fait un voyage en Amérique du Sud récemment et on était dans un pays où il y avait, c'était des armes à feu, c'était des carabines à plomb en fait, mais il y avait tous les modèles d'armes réelles, mais en version carabine à plomb, mais c'est assez pour faire peur, je te le confirme.
C'est sûr, quelqu'un se présente avec une arme comme ça devant toi, tu ne demandes pas si c'est une vraie, si c'est du carabine à plomb.
Non, et bien sûr. c'est pas le genre de...
Vraiment
le temps de dire, bon, ben, avant que tu tires, s'il vous plaît, puis-je m'informer, auriez-vous la gentillesse de me dire, s'agit-il d'une vraie arme ou d'une fausse? Alors, si c'est une vraie, permettez-moi de prendre mes jambes à mon cou, s'il vous plaît.
Écoute, Félix, Marc Sandreski, qui parle justement d'Aquassassiné, et il dit, les policiers, pour pouvoir entrer sur une réserve et faire des fouilles et tout ça, doivent avoir des autorisations judiciaires, bien sûr. Puis il dit, c'est pas chose facile, parce qu'entre autres, en 2017, il y a un policier qui s'est pointé devant un juge en disant, écoutez, là, on veut faire une descente, blablabla. Et le juge dit, je trouve très regrettable que les stéréotypes trouvent encore leur chemin dans des documents de la Cour. Christy, c'est pas des stéréotypes discriminatoires. Il y a du trafic d'armes dans la réserve d'Aquassassiné. C'est un fait.
Oui. Mais c'est ça. Mais moi, j'en connais aussi des policiers qui rongent leur frein présentement en disant comment on peut faire pour intervenir finalement dans trois pôles, là. Aquassassiné, Kanisatake et Kanawagé, où il y a du trafic d'armes. Et ça leur est rarement accordé à cause de la sensibilité de l'intervention policière là-bas. Alors, on demande des autorisations judiciaires, ça ne vient pas. C'est surtout pour Aquassassiné, il faut bien le dire, là. Et ce que, en fait, moi, ce que je trouve dans ça, désolant, c'est que qu'est-ce que fait le crime organisé quand il sait qu'il y a une zone presque de non-droit où les policiers peuvent pas intervenir? Ben, il en profite.
C'est ça.
Je veux dire, c'est la manne pour eux. T'imagines avoir un territoire qui est quasiment protégé, qui leur est presque livré. On voit pas beaucoup ça.
Félix, récemment, il y a eu une arrestation. Ben, en fait, une perquisition. Ils ont trouvé des armes, mais ils sont pas rentrés sa réserve. Ils attendaient que le bateau quitte la réserve. Puis après ça, là, ils l'ont pincé parce que rentrer sur la réserve, c'est trop compliqué. C'est trop délicat.
Mais même le juge auquel tu référais, là, il s'appelle Stéphane Gaudry de la Cour du Québec. Et en 2017, il avait semoncé, on pourrait dire, un sergent de la SQ qui avait évoqué devant lui la difficulté de faire des enquêtes sur le territoire d'Aquassassiné. Alors, il a dit, et je cite, « Je trouve très regrettable que les stéréotypes trouvent encore leur chemin dans les documents de cour. » Je trouve que les stéréotypes ont le dos large.
Ben
là,
oui.
Sauf tout le respect que je peux avoir pour l'honorable juge Gaudry, ben c'est pas un stéréotype. C'est vrai, tu sais, se cacher derrière une façon stéréotypée de présenter la réalité selon ses prétentions, ça me semble un peu fort de café, là, parce que je sais pas si moi je connais ça, si toi tu connais ça, si d'autres qui sont pas un public qui suit le crime organisé de manière quotidienne, comme certains journalistes peuvent le faire, moi et bien d'autres aussi de mes collègues, que je salue, alors je comprends pas pourquoi le juge formule un tel propos, tu vois.
Je comprends que les Autochtones ont leur territoire, ont leur réserve, puis ils sont souverains là-dessus, mais à un moment donné, c'est un problème qui touche tout le territoire de Montréal au complet. C'est comme un virus, là. C'est un virus, à un moment donné, il va falloir, soit on donne tous les pouvoirs aux policiers, soit ils n'ont pas de pouvoir. Écoute, hier, tu nous parlais de ces Freedom Riders, les camionneurs pour la liberté, et tu disais, ça sent mauvais, là. Ils ont ramassé plein d'argent, la fille met cet argent-là directement dans son compte personnel. Et là, on voit qu'effectivement, ça sent très mauvais. Là.
Oui, tellement mauvais que la plateforme de sociofinancement, le fameux GoFundMe, qui a été mis sur pied par une femme de l'Ouest canadien qui a eu des allégeances avec des groupes radicaux d'ailleurs, qui traînent dans toute une nébuleuse là, de groupements d'ailleurs anti-vax. Ben, la plateforme GoFundMe sur laquelle elle avait commencé cette initiative pour payer, disait-elle, l'essence aux camionneurs qui se rendraient à la grande manifestation à Ottawa. GoFundMe a bloqué l'accès à ces millions de dollars qui ont été ramassés. 3,5 millions de dollars que Tamara Litch a amassé en 10 jours sur la plateforme de sociofinancement. Ça s'appelle Convoi pour la liberté. Je t'ai mentionné hier que l'Association canadienne du camionnage était pas trop en accord avec le fait de voir ses membres présents à cette manifestation. Et là, GoFundMe dit les dons seront conservés en toute sécurité jusqu'à ce que l'organisatrice soit en mesure de fournir à notre équipe des documents relatifs à la manière dont les fonds seront correctement distribués, rapporte l'excellent Francis Pilon dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça, Richard? Est-ce que ça dit que les camionneurs font l'objet d'une certaine instrumentalisation par des groupements qui croient à des théories complotistes? Peut-être.
Ben peut-être. Puis tu sais, il faut faire attention, là, les campagnes de ce sous-financement puis tout ça. Là, c'est correct d'avoir la main sur le cœur et de vouloir financer, envoyer de l'argent à différentes causes, mais il faut voir tout le temps la façon dont cet argent-là est utilisé. Tu te souviens au lendemain là, du tremblement de terre d'Haïti, là, on s'était aperçu qu'il y avait un organisme là, qui ramassait de l'argent, puis je suis pas sûr que l'argent se rendrait directement là-bas, là.
Non, puis pas juste un organisme, plusieurs, parce que c'est bon, tout le monde voit l'opportunité l'occasion fait le larron, comme on le dit. Mais même dans le cas du grand rassemblement de camionneurs, là, il y a deux choses dans ça. Il y a réellement les camionneurs sont à 90% vaccinés. Là, on est un peu supérieur, on a deux doses, là, adéquatement vaccinés. On est un peu même plus vaccinés chez les camionneurs que la majorité de la population québécoise. Alors, tu t'imagines que chez certaines entreprises, mais chez certains camionneurs, Pierre Pelletier, propriétaire de l'entreprise Transport Pelletier, qui est dans la région du Grand Montréal, lui, ce qu'il dit, c'est méfiez-vous de ces initiatives-là, parce que les antivax utilisent les camionneurs pour en arriver à leur fin. Je dirais même qu'il y a aussi là Elisabeth Rioux, là, la femme d'affaires puis l'influenceuse, qui en a ajouté, Richard, en disant qu'il n'y a aucun média qui ne parlait de ça. Puis tu sais, quand tu fais une publication, quand tu publies sur tes réseaux sociaux ce genre de propos, quand tu dis les grands médias ne parlent pas de ça, ce que tu dis en fait, c'est que les médias nous cachent des choses. Qu'est-ce la vérité? Depuis 3 jours, les grands médias dont nous sommes en parlent. J'en veux la preuve qu'on en a parlé hier, qu'on en parle aujourd'hui, que c'était dans le Journal de Montréal. Il y a eu un texte hier, puis c'était aussi l'une des premières manchettes du téléjournal à Radio-Canada. On a parlé à TVA aussi. Alors bref, Elisabeth Rioux, je ne sais pas ce qu'elle cherche dans ça, mais ça contribue d'abord à dépeindre les journalistes comme des morons, puis les grands médias comme des niaiseux. Alors que c'est pas vrai, c'est faux. Puis d'ailleurs, parlant de fausses informations, petit mot en terminant sur cette mère qui s'est vue enlever l'autorité en matière de santé sur sa fille, parce que donc elle ne voulait pas que sa fille se fasse vacciner. Son père a utilisé la voie des tribunaux pour infléchir cette situation-là. Et devant le juge, cette maman-là, alors que le père se défendait avec un avocat, devant le juge, cette maman-là, défendait seul, a produit un tas de documents basé sur absolument rien, comme quoi il y avait des puces dans le vaccin, comme quoi il le rendait stérile, etc., etc., basé sur rien. Puis le juge, je trouve ça intéressant, dans cette cause-là, le juge a regardé les documents et sa provenance, et leur provenance, et a statué finalement que c'était, je résume, mais de la bouillie pour les chats, que ces documents-là étaient fondés sur rien. Alors moi, ce que je me dis, c'est que si les juges, hein, heureusement, vérifient la source des documents qu'on leur présente quand on est devant le tribunal, puis si les journalistes vérifient la source des informations qu'ils recueillent avant de les diffuser, ça doit être que c'est important, non? Je faisais le parallèle, je trouve qu'il est pertinent à faire dans ce cas.
Ben, tout à fait.
Vous, ça précise, ben comme oui. Du monde.
Ben, tout à fait. Il y a des gens qui vérifient les informations. Pouvez-vous faire confiance en ces gens-là? Ils vérifient correctement, que ce soit des juges ou des journalistes professionnels et pas des gens qui décident d'avoir un blog puis qui écrivent à 3h du matin tout nu avec un sac de Doritos entre les cuisses. Merci, Félix. Ouais. À demain. Salut.